France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Après les révélations d'Adèle Haenel, la justice ouvre une enquête préliminaire, notamment pour agression sexuelle sur mineurs. La comédienne accuse le réalisateur Christophe Ruggia d'attouchement et de harcèlement sexuel alors qu'elle avait entre 12 et 15 ans, des faits qui ne sont pas prescrits. Le cinéaste, lui, a nié les faits hier. Il se dit dévasté par cette affaire. Après l'Assemblée nationale, le Sénat valide le texte sur les féminicides en France. Un vote à main levée en l'absence des élus de gauche qui avaient quitté l'hémicycle un peu plus tôt pour protester contre un rejet systématique de leurs amendements. Cette proposition de loi prévoit notamment la mise en place du bracelet anti-rapprochement. Il prévoit aussi de rendre les ordonnances de protection plus efficaces. Les associations dénombrent en France 129 féminicides depuis le début de l'année. Jamais aucun gouvernement n'avait osé s'en prendre au droit à la santé des demandeurs d'asile. Ces mots sont ceux de Karine Roland, membre de Médecins du Monde. L'association dénonce l'une des mesures sur l'immigration qui ont été présentées hier par le gouvernement, celle de l'instauration d'un délai de carence de 3 mois pour l'accès des demandeurs d'asile aux soins et donc à la sécurité sociale figure parmi ces mesures. Autre annonce officialisée hier, les quotas d'immigration professionnelle, ainsi que l'évacuation de campements de migrants dans le nord-est parisien. Évacuation qui devrait d'ailleurs avoir lieu ce matin selon la préfecture de police de Paris et celle de la région Île-de-France. Nous serons sur place dans le journal de 6h30. Et dans une demi-heure également, zoom sur la privatisation de la Française des Jeux. Elle démarre aujourd'hui. Tout un chacun peut désormais et jusqu'au 20 novembre acheter une ou plusieurs actions d'une part de l'entreprise, la FDJ, qui va faire son entrée en bourse. La fourchette de prix a été communiquée hier entre 16,50 € et 19,90 € l'action. L'État se désengagera ainsi de la FDJ, passant de 72 à 20% du capital.
Chaque jour à 18h20, c'est le temps du débat sur France Culture. Emmanuel Laurentin.
Un article et un live de Mediapart avec l'actrice Adèle Haenel auront suffi en début de semaine à remettre sur le devant de la scène la question des violences sexuelles dans le milieu du cinéma et la façon dont notre société reçoit la parole des victimes. L'actrice y explique qu'elle ne parle que maintenant parce qu'elle se sent aujourd'hui suffisamment puissante pour porter cette parole. Violences sexuelles, faut-il être puissante pour être entendue? C'est la question que pose le temps du débat.
Le temps du débat, ce jeudi à 18h20 et sur franceculture.fr. Un espace de création affranchi des codes, le dimanche sur France Culture, l'expérience, à prolonger sous tous les formats, régulièrement en podcast original. Aurélie Charron.
Glenn Bénard a enregistré pendant un an la naissance du langage chez sa fille Eléa, entre son premier et son deuxième anniversaire. Les premiers sons et les premiers mots pour un podcast conçu à hauteur de ses oreilles à elle.
Premier mot, l'expérience en podcast original sur franceculture.fr. À vos casques.
Il est 6h03, nous retrouvons Toufik Hakem pour parler musique ce matin.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour et bienvenue dans le réveil culturel, la pop culture avant le pot de confiture. C'est tôt le matin à la radio ou quand vous voulez en passant par l'écoute en ligne ou l'abonnement au podcast du réveil culturel disponible entre autres sur franceculture.fr. Tous les jeudis c'est l'actualité musicale et aujourd'hui mon invité est l'auteur, compositeur, trompettiste et interprète Éric Truffaz pour la sortie de son album Lune Rouge chez Warner Music.
Le réveil culturel, jeudi. Musique. Thank you.
Lune Rouge, c'est le titre de votre album. Éric Truffaz, bonjour.
Bonjour.
Lune Rouge, ça sonne comme Soleil Vert. C'est de la science-fiction. Ça veut dire quoi d'ailleurs, Lune Rouge ?
Lune Rouge, c'est un moment très particulier dans l'astrophysique qui présage pas mal de bonnes augures.
C'est-à-dire, c'est au moment d'une éclipse totale, je me suis un peu renseigné, où la Lune, la Terre et le Soleil doivent être en axe, et là, on a une Lune qui apparaît rouge sang, quoi. J'ai jamais vu ça.
Moi, j'ai vu une Lune rouge cet été, se coucher sur la mer Méditerranée en revenant de Corse.
Alors, pourquoi avoir intitulé cet album « Lune rouge » Éric Truffaz ?
Ce qu'il faut dire, c'est que lorsque je compose les albums, on compose en groupe et puis on a des parties complètement improvisées et des parties qui sont écrites et interprétées. Et dans ces parties improvisées, j'ai eu l'envie et l'idée de donner des noms de constellations et donc ça faisait sens d'appeler l'album Lune Rouge.
Vous dites que d'abord, vous composez, il y a une partie composée, écrite, c'est vous qui composez ?
Non, là, en l'occurrence, il y a eu 4 morceaux qui ont été commandés au batteur, qui s'appelle Arthur Natek, qui a 30 ans de moins que moi, et donc qui a une autre vision des choses. Et donc, il nous a permis d'aborder la musique sous un autre angle.
Et comment vous travaillez un enregistrement d'un morceau, puisqu'il y a une part d'improvisation ?
On travaille la partition comme de la musique classique. On apprend. Là, il y a pas mal de rythmes qui se juxtaposent. Donc, la difficulté, c'est les polyrythmies. Donc, on apprend à jouer cette musique. Et une fois qu'on la joue, on se laisse aller trouver d'autres idées. Et un morceau comme Lune Rouge, par exemple, on a pu l'enregistrer à peu près 60 minutes de ce thème-là. Et après, j'ai coupé les meilleurs moments et puis j'ai fait les montages.
Montage, mixage en même temps ?
Moi, je fais pas le mixage après. Ça, c'est mixé par Benoît Corboz. Mais voilà, ce qui est important, c'est la dramaturgie de la musique.
Bon, est-ce qu'on part d'un thème quand on compose de la musique, Éric Truffaz, ou plutôt de sentiments ?
La Lune Rouge, Arthur Natek avait mis les arpèges qu'on entend au début, et moi j'ai fait un thème. Là c'est une question double, parce qu'en fin de compte, pour qu'un thème soit valable, il faut quand même qu'il donne des émotions et donc des sentiments.
On imagine comment on le joue sur scène quand on enregistre un morceau, Éric Truffaz ?
Non, après, lorsqu'on le joue sur scène, on essaie de se mettre moins de barrières que lorsqu'on en avait lorsqu'on enregistre.
Parlez-nous de votre quartet, Éric Truffaz.
Bon, le quartet, c'est un groupe que j'ai formé en 1991. Là, en l'occurrence, du quartet, pour cet album, il reste le bassiste, qui s'appelle Marcello Giuliani. Et pour cet album, il y a un jeune batteur qui s'appelle Arthur Natek. Et Benoît Corbeau, qui est au clavier et qui, lui, a mixé, qui est ingénieur du son, qui a mixé l'ensemble des albums. Et le procédé, souvent, est un laboratoire où on improvise ensemble et on retire des thèmes. Et pour être très honnête, ce que je préfère, c'est ce qui n'a pas été vraiment prévu. C'est-à-dire, une fois qu'on a enregistré les morceaux qu'on a travaillés, on fait des séances d'improvisation, et c'est là que je suis le plus sensible aux résultats.
Mais comment vous les avez rencontrés, ces musiciens ? Comment naissent les affinités musicales avec vous, Éric Truffaz ?
En l'occurrence, là, les musiciens, je les avais rencontrés quand j'étais dans une école de jazz. C'est souvent quand on apprend, qu'on étudie, qu'on rencontre des gens avec qui on a des affinités, avec lesquels on peut développer des choses. Arthur Natek, je l'ai rencontré en jouant avec Tigran Amassian, qui est un pianiste arménien, et il était le batteur de Tigran. Et le groupe venait des États-Unis, donc je les salue en anglais. Et lui m'a dit, tu peux me parler français, parce que je viens de Genève et je connais bien
ton travail. Quelqu'un comme vous, Éric Truffaz, qui a vécu pas loin de la frontière suisse, puisque vous avez passé votre enfance dans le pays de Gex. Donc, il y a eu des affinités déjà d'ordre...
Non, là, il y avait une affinité musicale et en l'occurrence, connaissait...
Mais c'est quoi une affinité musicale? C'est quand un musicien joue bien, quand sa musique vous poursuit après le concert ou après avoir écouté sa musique? Ou parce qu'après quelques discussions, quelques soirées passées ensemble, vous vous rendez compte que vous avez envie d'imaginer, de produire la même musique?
Au départ, une affinité musicale se construit sur un échange de sons. C'est-à-dire qu'on joue avec quelqu'un et il se passe quelque chose qui est intéressant, de l'ordre de l'émotionnel. Pour ce qui me concerne, j'ai besoin qu'un musicien sache jouer, mais s'arrêter de jouer. C'est ça qui est très important. Parce qu'être virtuose, c'est comme quelqu'un qui apprend à très bien parler.
Et qui ne cesse de parler pendant une soirée.
S'il ne s'arrête jamais, il ne peut pas avoir de dialogue. C'est ça. Et donc voilà, il faut qu'il ait du vocabulaire, mais qu'il y ait une écoute, et puis que les personnes, enfin un ensemble, l'ensemble doit se fondre pour former une œuvre intéressante. Après, l'affinité musicale, c'est culturel aussi. Il faut quand même que les gens aient des racines communes et puis une ouverture commune aussi.
Alors, vos racines communes avec vos musiciens, Éric Truffaz, c'est quoi? C'est le free jazz?
Les racines communes vont de Requiem de Mozart au hard rock en passant par de la musique indienne, la musique ambiante, la musique électronique. Donc c'est
tout ce que vous avez fait.
C'est absolument multiple.
Ouais. S'il fallait parler de vos débuts en musique, vous avez baigné dans un univers musical puisque votre père était saxophoniste, mais saxophoniste dans des groupes de pop, de variété. Hein.
Oui, mon père faisait la chanson.
Ouais.
Totalement. Oui, oui. Donc je me suis inspiré de cette musique pour la mélodie. Et après, je me suis dressé contre cette musique en essayant d'en inventer une autre.
Ouais, avec un instrument que vous avez choisi ou que votre père vous a suggéré?
On va dire que c'est une suggestion choisie.
C'est-à-dire, Éric Truffaz?
C'est-à-dire que quand on est enfant et qu'on a 5-6 ans... Les parents nous conseillent, quoi. Et après, on choisit. Et après, si on adhère à un instrument, on le fait sien. En l'occurrence, moi, j'ai adhéré à cet instrument de 6 à 11 ans. Ou, non, on va dire 6 à 12 ans. Puis après, bien sûr, la pop est arrivée avec les belles guitares, avec Hendrix, Led Zeppelin. Et j'avais envie de faire de la guitare. Et après, j'ai découvert Miles qui faisait de la trompette électrifiée. Et donc, ça m'a remotivé. Et j'ai adhéré à cet instrument.
Quelle relation vous avez avec la trompette, du coup?
C'est une relation assez physique. C'est de l'ordre du yoga, hein, parce que il faut respirer d'une certaine manière pour jouer de la trompette. Et il faut pas la prendre aussi en force, parce que c'est un instrument qui se retourne contre soi-même, parce qu'on utilise les muscles des lèvres qui sont très fins, et donc il faut utiliser une bonne respiration. Et puis, ce que je cherche aussi au travers du son, c'est quand même c'est assez méditatif. Donc il y a une recherche physique qui passe par le souffle, mais qui a une connexion avec l'esprit.
Quand vous le choisissez, cet instrument, ça fait longtemps que vous tournez avec la même trompette, Éric Truffaz?
Alors là, je rejoue la trompette avec laquelle j'ai enregistré Benigno Corner en 1997. Mmh. Mais la trompette, c'est un peu comme... j'ai le même rapport avec la trompette qu'avec la littérature, finalement. Parce que parfois, je reprends un livre que j'ai lu il y a 10 ans et il n'y a plus la même musique. Et des fois, je reprends une vieille trompette et comme mon souffle et mon son a changé, la couleur du son est différente.
looking through the mirror, trying to find another man there. Been so many years, but I wish they'd understand me. And your voice stays on my mind. I've been waiting for the right time, babe. Got no time for tears, moving on and it's alright. Deep in my soul, the fire abides, burning bright and out of control, to shine the light. Deep in my mind, the thought, the hope, I done turned the day into night. Now I know. Deep in my soul, the fire abides, burning bright and out of control, to shine the light. Deep in my mind, the thought, the hope, I done turned the day into night. Now I know. On the radio, turn me up above the static, above the static. Everywhere I go, see reflections of the madness. And your voice stays on my mind. I've been waiting for the right time, baby, baby. Got no time for fear, in the zone and it's alright, baby, yeah. Deep in my soul, a fire abides, burning bright and out of control, a shine of light. Deep in my mind, a thought, a hope, I done turned the day into night. Now I know. Deep in my soul, a fire abides, burning bright and out of control, a shine of light. Deep in my mind, a thought, a hope, I done turned the day into night. Now I know.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Avec Eric Truffaz aujourd'hui, un autre extrait de Lune Rouge. Eric Truffaz, est-ce que les paroles pour vous, c'est un instrument parmi tant d'autres ou ça a un autre sens, ça accompagne autrement la musique?
En tout cas, la voix est un complément indispensable pour mes albums parce que...
Comme un son ou comme du sens?
Surtout comme en son. Bien sûr que je regarde les paroles qu'écrivent les chanteurs avec qui je collabore, qu'elles correspondent à ma philosophie de vie. Mais je pense que dans un disque instrumental, quand une voix arrive, c'est une respiration et c'est formidable.
Alors c'est quoi votre philosophie de vie, Eric Truffaz ?
C'est une bonne question. Alors, ma philosophie de vie, c'est quand même essayer de vivre en étant le plus honnête avec moi-même, ça c'est une réponse de politicien, mais virgule, essayer de vivre en poésie.
Ah, ça c'est une réponse d'artiste.
Vivre en poésie, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un regard sur la vie, c'est une manière d'essayer de vivre autant présent et en essayant de magnifier chaque jour, chaque instant. C'est un peu ça rejoint un petit peu la philosophie du bouddhisme, mais au travers d'un cheminement d'artiste.
Éric Truffaz, puisqu'on parle de votre rapport aux mots avec votre compagne, la comédienne Sandrine Bonner, vous avez conçu un spectacle autour des textes, des mots de Marguerite Duras. Pourquoi Marguerite Duras? Est-ce que c'est la musicalité de son écriture? C'est ce qu'elle écrit? C'est votre rapport particulier à Duras?
J'aime beaucoup Duras, hein, et j'aime les métaphores, la poésie et la musique de Duras. Au départ, je devais faire un spectacle autour de Bukowski, parce que il est rappeux et il rebondit, et je voyais bien ce que je pouvais faire avec ceci. C'était en collaboration avec Weber, et puis finalement, Weber a décliné et j'ai eu envie de travailler sur une auteure féminine qui est Duras. Et à ce moment-là, je lisais une autobiographie de Gérard Depardieu qui disait qu'il aimait la musique qu'il y a dans les silences entre les mots de Duras. Et je me suis dit, ça m'a marqué, et donc je me suis plongé, j'ai relu pas mal de passages de Duras, dont pas mal de passages de la vie matérielle, et voilà.
Et comment imaginer une musique pour accompagner un texte, par définition d'un texte?
Alors c'est un peu comme un film, hein, il faut que la musique... ne mange pas le texte, ça c'est très très important. La musique doit être au service du texte et en contraste.
En contraste, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire accompagner le sentiment du lecteur
ou... En contraste, ça veut dire que lorsque le texte s'arrête, la musique doit être pertinente et créer une autre dynamique pour que la suite du texte soit intéressante. C'est un exercice un peu prétentieux parce que finalement, Duras pourrait se passer de musique, hein, ça fonctionne très bien. Mais en étant artiste, de toute façon, on est un petit peu dans l'ego et la prétention, puisque on va sur scène. Et dans cette prétention, je pense qu'on peut donner et créer des nouvelles émotions. C'est ça qui est important.
Alors, quand vous dites nouvelles émotions, c'était quoi l'idée de départ? C'était d'habiller le texte de Duras ou le donner à entendre en accompagnant, en composant cette musique qui vous a inspiré?
Ce qui s'est passé aussi,
que le texte vous a inspiré,
pardon. Ce que je dois vous dire, c'est que j'ai fait quelques spectacles avec Jacques Weber et il avait extrait de la vie matérielle une chronique que Marguerite Duras avait fait dans Libération qui s'appelle Le buveur d'eau sur une famille qui se suicide parce qu'on leur a coupé l'eau. Ça se passe dans les Ardennes. Et c'est un drame. Et il se passait quelque chose de fort quand on faisait ça. Donc là, je me suis dit aussi que ma trompette pouvait résonner au texte de Duras. Ça c'était une expérience que j'ai faite sur scène, donc qui était valable.
Dans votre bibliothèque idéale, il y a au moins Charles Bukowski et Marguerite Duras. Est-ce que d'autres auteurs, d'autres écrivains ont inspiré pour composer de la musique, Éric Truffaz?
Non, ce que je dois dire, c'est que la littérature ne m'inspire pas pour composer la musique, mais elle inspire ma vie. C'est-à-dire là, je lis « L'homme sans qualité » de Robert Musil, que ma femme, Valérie Carré, m'avait offert il y a 10 ans. Je ne comprenais pas, c'est pour ça que je parlais d'une musique ou une trompette. Et à présent, je trouve ça extraordinaire et ça rythme ma vie. Donc ma bibliothèque, il y aura de toute façon Proust, Musil, plus tous les Russes et tous les Américains et tous les Français que j'adore.
Et au rayon disque, vinyle, CD ou je ne sais pas si ça se trouve, vous êtes comme tout le monde maintenant, vous écoutez la musique en passant par par le numérique.
Ce que je préfère, c'est écouter des vinyles. Mmh. Et au rayon vinyle, il y aura absolument le quintet à cordes de Schubert. Il y aura Porgy and Bess de Miles Davis. Et puis un disque des Beatles.
Des Beatles ?
Tout à fait.
Pourquoi ?
Parce que je trouve que la mélodie fait partie des paramètres qui améliorent la vie. C'est, par exemple, pourquoi j'aime Musil ? Parce que si je lis une phrase, je trouve que c'est une belle musique, c'est poétique. Ben, les Beatles, c'est une mélodie formidable qui éclaire la vie d'une manière incroyable.
Il y a un petit air d'ascenseur pour l'échafaud dans votre dernier disque, Lune Rouge, Eric Truffaz.
Bon, je pense qu'il y a un petit air pour Ascenseur pour l'échafaud depuis mon premier disque.
Ah oui ?
Parce que c'est un disque très important, Ascenseur pour l'échafaud. C'est un disque improvisé avec la magie et la rigueur de Miles Davis et qui m'a profondément influencé.
Et sur scène, Eric Truffaz, vous essayez de restituer ce que vous avez accompli dans un studio, c'est-à-dire le disque tel que vous l'avez sorti et validé, après avoir fait des coupes, ou pour vous c'est un nouvel espace où on peut expérimenter, oser des variations autour des mêmes morceaux enregistrés en studio ?
Non, nous, ce qu'on fait, c'est que on développe l'album sur scène. C'est un laboratoire qui se veut ouvert.
Improvisée ou musique composée, écrite, ce qu'on vient d'entendre là ?
Ça, c'est complètement improvisé. À la fin des périodes d'enregistrement des musiques écrites, j'ai demandé au batteur d'amener son set électronique. Il a une batterie qui est reliée à un ordinateur, donc ça permet de faire des sons étranges. Et on a fait 3 jours d'improvisation dans lesquels ont été extraits toutes les chroniques de l'album.
Merci Eric Truffaz d'être passé ce matin.
Merci, je suis très fier d'être passé à France Culture ce matin.
Le réveil culturel de Tufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr.
Lune Rouge d'Eric Truffaz, c'est chez Warner Music. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec France Culture. Cette émission a été réalisée par Christine Robert avec ce matin à la technique Jacques Hubert. Émission préparée comme tous les jours avec Corinne Amar. Bonne matinée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Informer, témoigner, décrypter. Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Le mix énergétique n'est pas un cocktail comme les autres, mais un choix décisif pour notre avenir. Avec une question essentielle, quel pourcentage de nucléaire ? On en parle ce jeudi dans les matins.
Les matins de France Culture, ce jeudi dès 7h et sur franceculture.fr.
Les éditions Radio France présentent la nouvelle collection de livres pour enfants, Oli. Des histoires du soir réinventées par les plus grands auteurs.
Geneviève Brisac. François
Morel. Delphine de Vigan. Zep.
Oui. Un canard qui parle, un Père Noël écologique, le dernier voyage d'un poisson rouge, un lutin magique. Des contes aux univers singuliers, merveilleusement illustrés. Une histoire et... Oui. Une coédition France Inter, disponible en librairie.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. De plus en plus d'étrangers sont accueillis par le Secours catholique. L'association le détaille dans un rapport annuel publié ce matin, alors qu'un camp de migrants est en train d'être démantelé dans le nord de Paris. La Française des Jeux commence à être démantelée. La privatisation débute avec la vente des actions de l'État à partir d'aujourd'hui. Mais le grand public va-t-il vraiment participer à cette privatisation, à l'achat des actions? Élément de réponse dans un instant. Et puis nous nous pencherons sur la future force européenne déployée au Mali dès l'année prochaine. La ministre Florence Parly donne quelques détails. Les campements de migrants installés dans le nord-est parisien doivent donc être démantelés ce matin. C'est ce qu'indiquent la préfecture de police de Paris et la préfecture de la région Île-de-France. En ce moment, 600 policiers sont à la porte de la Chapelle. 1200 migrants pourraient être concernés, 1200 migrants au total. Ce démantèlement avait été annoncé hier midi par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, lors de la présentation de la politique migratoire du gouvernement. L'exécutif qui s'engage par ailleurs sur la voie des quotas de travailleurs immigrés et sur le durcissement de l'accès aux soins pour les sans-papiers et les demandeurs d'asile. La gauche dénonce un plan dangereux, la droite un laxisme. Et c'est dans ce contexte que le Secours catholique alerte par ailleurs sur le sort des étrangers en France. L'association publie aujourd'hui son rapport annuel. Il est basé sur les témoignages des personnes accompagnées par l'association. L'année dernière, dit le Secours catholique, 43% des personnes pauvres accueillies était étrangère, une proportion qui ne cesse d'augmenter depuis 10 ans dans le pays. Plus largement d'ailleurs, la pauvreté gagne du terrain, Mathilde Dehimy.
Les extrêmement pauvres sont encore plus pauvres que l'an dernier et les un peu moins pauvres n'arrivent pas ou peu à sortir de leur situation. Un tableau sombre du Secours catholique qui note que le niveau de vie médian des ménages accompagnés a encore reculé en un an de 15 euros, 535 euros contre 1735 euros pour le revenu médian des Français. Une personne sur cinq suivie par le Secours catholique n'a même aucun revenu du tout. Beaucoup de jeunes étrangers qui attendent une situation légale stable et n'ont pas le droit de travailler, de faibles ressources qui touchent aussi beaucoup plus les femmes, surtout celles seules avec enfants. 4 sur 10 sont à temps partiel, en hausse de 5 points en 10 ans. De plus en plus de familles étrangères frappent aussi à la porte du Secours catholique, 40% en 2000, 61% en 2018. Avoir fait des études ne protège pas de la précarité. D'après l'association, 60% des personnes accompagnées ont fait des études secondaires ou supérieures, une hausse de 10 points en 10 ans.
C'était Mathilde Duhimi. Une marche qui divise, prévue ce dimanche, la manifestation contre l'islamophobie ne rassemblera finalement pas toute la gauche. Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts n'ira finalement pas, alors qu'il avait initialement signé le texte qui appelait à se mobiliser. Le député de la France Insoumise, François Ruffin, a également fait marche arrière hier et le Parti Socialiste a officiellement fait savoir qu'il ne s'associerait pas à cette marche. Parmi les problèmes soulevés par le texte qui appelait à la mobilisation contre l'islamophobie, il y a notamment le fait que l'un des organisateurs est le CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, qui est une organisation considérée comme proche des frères musulmans. Cela n'empêche pas la plupart des insoumis de maintenir, eux, leur participation, à l'image du député de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel.
D'abord, j'insiste, il n'y a pas que le CCIF qui appelle, qui est initiateur. La seule chose que j'ai à dire, c'est que je ne connaissais pas la liste des initiateurs. Je ne parle pas des signataires, des initiateurs. Je l'ai découverte en partie, notamment... Ça, je trouve que j'aurais aimé le savoir à l'avance. Mais pour autant, ce n'est pas ça qui fait que je ne marcherai pas. Voilà, si vous parlez du CCIF, j'ai bien regardé. Je n'ai pas vu, par exemple, autant de choses dramatiques que j'entends circuler sur les réseaux sociaux depuis quelques temps. Ce n'est pas une organisation proche de moi, je le dis. Mais pour autant, est-ce que ça vaut parce qu'ils signent le fait de ne pas manifester? Vous savez, il n'y a pas longtemps, j'ai manifesté à l'appel du CRIF. Voilà, j'ai plein de désaccords avec cette organisation très communautaire et qui, en plus de ça, nous agresse, contrairement au CCIF. Et donc, à partir de là, j'estime que la situation est tellement grave. Le texte, sur le fond, je n'ai rien à y redire. Et encore une fois, je vous le dis, j'ai signé des appels avec des gens encore bien plus éloignés de mes idées récemment pour des bonnes causes. Je ne le regrette pas. Du coup, je vais marcher et j'espère qu'il y aura des appels encore plus larges prochainement.
Des propos recueillis par Stéphane Robert. Damien Abad est le nouveau président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Le député de l'Ain a été préféré au favori Olivier Marleix. Il emporte 64 voix contre 37 et prend donc la suite de Christian Jacob à l'Assemblée. Le parti Les Républicains, qui par ailleurs a investi officiellement sa candidate hier pour les municipales à Paris, ce sera Rachida Dati, maire du 7e arrondissement
arrondissement, ancienne ministre de la Justice. Ses priorités sont la propreté dans Paris, l'écologie et la sécurité. Rachida Dati est actuellement visée par une enquête pour corruption et abus de biens sociaux. La privatisation de la Française des Jeux est lancée. S'ouvre aujourd'hui la période de souscription des actions qui va durer 2 semaines. Le grand public est associé à cette souscription puisque chacun peut acheter s'il le souhaite des actions de la FDJ. L'État met en vente 52% de son capital et en espère 1 milliard d'euros au total à Anne-Laure Jumet.
Pour susciter l'intérêt, le gouvernement n'hésite pas à utiliser l'argument promotionnel. Il y aura ainsi une prime pour ceux qui garderont leur titre Française des Jeux plus d'un an et demi, une action gratuite pour 10 actions achetées et une décote de 2% sur le prix de l'action. Mais cela sera-t-il suffisant pour faire revenir les particuliers vers les marchés financiers? Depuis la crise de 2008, ils s'en sont détournés, trop risqués. Le nombre d'actionnaires individuels a ainsi été divisé par 2 en 10 ans. Cela dit, le contexte pourrait aider les épargnants à s'intéresser de plus près à la bourse et donc pourquoi pas à la Française des Jeux, une entreprise très identifiée. Le CAC 40 a atteint en début de semaine des niveaux qu'il n'avait plus connus depuis octobre 2007. Et avec les taux bas, les placements préférés des Français deviennent de bien mauvaises affaires, explique Luc Arondel, chercheur au CNRS et spécialiste des comportements d'épargne des ménages.
Ce qu'on voit, c'est que le rendement sur les produits sans risque et puis même sur les assurances-vie en euros, ça rapporte pratiquement plus rien. Donc si vous voulez quand même espérer un peu de rendement, avec un risque supérieur aussi, il faut vous tourner plutôt vers des assurances du multi-support ou sur le marché boursier. Je pense qu'à long terme, les actions sont quand même un des placements les plus rentables.
Alors cette seule privatisation ne suffira pas à donner envie d'investir en bourse. Il faut, de l'avis des experts, recréer une dynamique globale. D'autant que selon l'adage bien connu des investisseurs, il faut bien prendre garde à ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
La somme récoltée par l'État sera destinée, dit l'État, à financer l'innovation. Le prix de l'action de la FDJ sera compris entre 16,50 € et 19,90 €. Le grand malaise des enseignants et ce chiffre donné hier, 58 agents de l'éducation nationale sont suicidés l'année dernière. Depuis la rentrée de septembre, 11 suicides ont déjà été recensés. Le réalisateur Christophe Ruggia nie toute agression dont l'accuse Adèle Haenel, mais il parle d'erreur et demande tout de même pardon à l'actrice. Hier, la justice s'est saisie de ces accusations, ouvrant une enquête préliminaire pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans par une personne ayant autorité. Une enquête également pour harcèlement sexuel. Donald Trump et son camp républicain ont essuyé hier 2 défaites cuisantes. À 1 an de la présidentielle outre-Atlantique, le parti républicain a perdu 2 élections locales attendues dans le Kentucky et dans la Virginie. Pour la première fois en 25 ans d'ailleurs, les démocrates ont repris le contrôle des 2 chambres de l'Assemblée de Virginie. Au Burkina Faso, l'attaque d'un convoi d'une société minière canadienne a fait hier soir 37 morts et 60 blessés. La société Semafo a fait déjà l'objet au Burkina de 2 attaques similaires, c'était en août 2018. Une force spéciale européenne sera créée l'année prochaine au Sahel, au Mali plus précisément, pour appuyer l'armée du pays dans la lutte contre le terrorisme. La ministre française des armées, Florence Parly, la présentait cette semaine, quelques jours après la mort au Mali de 49 soldats du pays, ainsi que d'un militaire français. Cette force européenne portera le nom de Sabre, traduit en tamashek, Nathalie Hernandez.
Cette unité de force spéciale européenne, annoncée en juin dernier et proposée par la France, a désormais un nom, Takuba. Elle sera le sabre qui armera les forces maliennes sur le chemin de l'autonomie et de la résilience, assure Florence Parly. Mais pour l'heure, on ignore combien de nations vont suivre. La ministre des Armées affirme avoir sollicité 12 de pays. Les retours sont positifs, ajoute-t-elle, précisant toutefois qu'il reste subordonné à un accord politique. C'est bien sûr l'une des principales questions, car l'engagement de ces militaires est plus que tout autre subordonné à ce feu vert politique. Aujourd'hui, la France est le seul pays européen à avoir déployé des forces spéciales dans la bande sahélo-saharienne depuis maintenant 10 ans. Ses autres partenaires, comme l'Allemagne par exemple, apportent un soutien essentiellement logistique. Quant aux missions de Takuba, il s'agit officiellement de transmettre un savoir-faire d'exception aux unités maliennes. Mais là encore, des questions sans réponse, à qui sera confié le commandement ou encore quels moyens seront apportés pour la mise en œuvre de ce dispositif.
Une perturbation pluvieuse arrive par la façade atlantique ce jeudi. Elle s'étendra jusqu'à la région Auvergne-Rhône-Alpes dans la matinée, laissant à l'arrière un ciel plutôt ensoleillé. Dans la matinée, les températures sont assez homogènes. Il fera entre 10 et 11 degrés au nord de la Loire ce matin, 12 à Bordeaux, 16 degrés à Marseille. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Il est 6h40 et dans votre journal des idées, Jacques, vous revenez sur les difficultés du monde paysan qui s'affichent au quotidien ces derniers mois.
Oui, avec les manifestations d'agriculteurs le mois dernier, le film d'Edouard Bergeon, Au nom de la terre, le débat sur les pesticides. Ça n'est pas un résultat, mais il faut constater donc un suicide par jour. Le chiffre est énorme compte tenu de la taille de la population. Jean Viard rappelle dans l'hebdomadaire Le 1 comment on est passé dans les années 60 et en l'espace d'une génération de 3 millions à 440 000 fermes. Aucun métier n'a connu une telle destruction des structures familiales, mais le modèle industriel promu depuis lors, toujours plus d'hectares, toujours plus de matériel, d'intrants, d'emprunts, est aujourd'hui confronté à la révolution écologique. Pourtant, l'agriculture est l'avenir de l'humanité, car c'est par définition un métier du renouvelable qui travaille avec le sol, le vent, le soleil, l'eau et les savoirs locaux. Le sociologue souligne que les agriculteurs ne sont pas restés passifs face aux nouveaux enjeux de l'écologie. 20% des fermes sont passées au bio, l'agriculture de proximité se développe, le modèle des fermes qui fournissent directement les cantines scolaires se développent. 32% des poules ne sont pas élevées en cage. Mais le monde paysan, classe dominante qui produisait plus de rente que l'industrie jusqu'aux années 1950, a encore du mal à s'adapter à son statut de minorité, à discuter, négocier, mais aussi à se faire respecter, en particulier de la grande distribution. L'économiste Pierre Chalmin rappelle que la politique agricole commune qui garantissait la stabilité des prix s'est désintégrée sur une scène européenne reflétant désormais les tendances mondiales. Face à cela, les agriculteurs peuvent essayer de jouer la carte des niches, les IGP, les indications géographiques protégées, du bio ou de la commercialisation directe, mais essayer de s'organiser dans une logique contractuelle se heurte en France aux autorités de la concurrence qui ont la fâcheuse tendance à être plus dures avec le cartel des endives qu'avec celui de la téléphonie. Arrêtons l'agri-bashing. La formule revient dans l'hebdomadaire, notamment sous la plume d'Edouard Bergeon, le réalisateur de Nom de la Terre. Parmi nos combats, nous avons la responsabilité collective de nous opposer à l'appropriation du vivant par les géants de l'agrochimie. Tout ce qui faisait la vie et sa saveur est en passe d'être contrôlé par quelques-uns ou éradiqué, purement et simplement. 75% des semences dans le monde ont été détruites depuis 1970. Les agriculteurs sont les premières victimes d'un système qu'ils n'ont fait qu'appliquer. Si nous devons arrêter le glyphosate et autres pesticides, n'importons plus aucun produit européen qui ne réponde aux mêmes normes sanitaires que les nôtres. N'importons plus d'Amérique du Sud du soja transgénique mûri au glyphosate, du bœuf piqué aux hormones, du poulet industriel trempé dans l'eau de Javel. Édouard Bergeon déplore que dans le pays du bien-manger, les agriculteurs se meurent alors que la restauration rapide se développe. La nourriture est notre première médecine préventive, notre héritage et notre culture. La terre a un nom, ajoute-t-il, c'est celui de nos enfants, de nos parents, de nos jeunes, de nos anciens, de toute confession, de toute origine. Édouard Bergeon a monté des restaurants à Paris pour valoriser le travail de ses anciens camarades de terre. Le restaurateur que je suis devenu, dit-il, espère que dans le plus grand nombre de cuisines françaises, nous retrouverons le chemin des bons produits cultivés avec amour et passion, et ainsi nous aurons rétabli le cercle vertueux, sain et évident de la fourche à la fourchette. Il se fournit en circuit court pour faire vivre les maraîchers et les éleveurs qu'il connaît. La revue 180 degrés est allée lui rendre visite. Il rappelle que la fonction première du paysan, c'est son rôle nourricier. A retrouvé dans ce numéro également le grand entretien avec Alice Waters, patronne du restaurant Chez Panisse aux États-Unis, prônant une cuisine simple et savoureuse à base de produits frais, bio et locaux. Elle est convaincue que l'on peut éduquer par le goût et changer le monde par la manière dont on mange. Formée à la cuisine française, elle insiste elle aussi sur le lien entre nature et nourriture. La dernière livraison de la revue Esprit porte sur la vie en province, laquelle a un sens plus large que la ruralité. La ville s'est en quelque sorte répandue dans les villages où les agriculteurs ne représentent que 5 à 10% de la population, même s'ils détiennent 53% du sol, sans compter les forêts. On parle ainsi d'espaces rurbanisés. Pour Quentin Jagorel, les dynamiques territoriales en France suivent depuis quelques décennies un double mouvement de métropolisation et de régionalisation. Jusqu'aux années 1970, des villes moyennes pouvaient former une sorte de réseau neuronal sur lequel s'adossait la France rurale. Ce réseau s'est progressivement polarisé, éloignant cette France du reste du pays. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier.
Au sommaire des enjeux aujourd'hui, faut-il revoir notre alliance avec les États-Unis?
Oui, les derniers événements en Syrie ont encore témoigné d'une grande confusion de la politique étrangère de Donald Trump, mais qui ne tient peut-être pas qu'au caractère incohérent de Donald Trump lui-même. Bon, c'est quand même lui pourtant qui, il y a un mois, annonçait le retrait des forces américaines, ce qui autorisait l'offensive militaire turque, qu'il a néanmoins condamné en adoptant des sanctions qu'il a presque aussitôt levé avant de renvoyer des troupes pour sécuriser les ressources pétrolières. Et voilà donc les soldats américains ayant quitté le nord de la Syrie il y a quelques semaines, en abandonnant leurs alliés kurdes, repasser la frontière en sens inverse depuis l'Irak pour se positionner autour de Deir ez-Zor, où se trouvent d'importants champs de pétrole. La politique étrangère américaine, de plus en plus adepte de la stratégie du transfert de fardeau, selon l'expression de notre invité. Dans quelle mesure ses alliés doivent-ils accepter ce fardeau? Bonjour Alexandra de Hoopscheffer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes politologue spécialiste des États-Unis, des relations transatlantiques et des affaires stratégiques. Vous êtes directrice à Paris du think tank German Marshall Fund of the United States. Alors, un mot sur la stratégie américaine, disons, immédiate. Retrait ou pas retrait du Moyen-Orient ?
Alors effectivement, le retrait qui était censé être total, donc environ 1000 militaires américains, est très vite devenu partiel pour finalement se transformer en redéploiement. Donc il y a eu plusieurs étapes en quelques semaines finalement. Pourquoi ces revirements ? Pour deux raisons. D'abord l'influence quand même qu'il faut reconnaître du Pentagone, mais aussi de quelques figures républicaines influentes comme le sénateur républicain de la Caroline du Sud, Lindsey Graham, qui ont déployé cet argument du pétrole, sachant que l'obsession du président Trump pour cette question-là est bien connue. Ça fait depuis la guerre du Golfe et ensuite la guerre en Irak de 2003 qu'il dit « je ne comprends pas pourquoi les États-Unis ne prennent pas possession des ressources pétrolières, on devrait le faire, etc. »
Donc c'est eux au Pentagone qui sont allés voir Donald Trump en disant mais c'était un prétexte selon vous, parce que eux pensent que de toute façon l'État islamique n'est pas du tout à terre, comme le pense Donald Trump, et qu'il faut rester.
Bien sûr, sachant que les ressources pétrolières en Syrie, aujourd'hui, ne représentent franchement pas grand-chose. On est autour de 30 000 barils par jour, et encore, ça représente à peu près 0,03% de la production mondiale de pétrole, vous imaginez. Donc, ce n'est pas l'Arabie Saoudite, par exemple. Donc, cet argument du pétrole, ça a été effectivement un moyen de convaincre, peut-être de manière plus facile, le président Trump de laisser une force résiduelle américaine en Syrie. Ça a fonctionné. Effectivement, il y a ce mouvement des troupes américaines, environ entre 400 et 500 vers les puits de pétrole, donc dans l'Est. Mais aussi, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est la pression de certains pays voisins, notamment Israël, la Jordanie, très inquiète aussi de voir l'influence de l'Iran s'accentuer un peu plus avec un départ des troupes américaines. Et donc là, on a un renforcement aussi de cette base américaine à la frontière jordanienne syrienne, à Al-Tanf, qui permet là aussi de contrecarrer éventuellement l'Iran dans cette partie-là. Donc à la fois, je dirais, une pression qui vient du Pentagone et du Parti républicain, donc le parti de Trump, qui n'ont pas du tout accepté cette décision de leur président. Et puis également les puissances régionales qui ont alerté sur les dangers que pouvait représenter ce départ.
Donc ne pas abandonner complètement cette route de l'arc chiite. Comment on dit, il y a une expression en américain, c'est mettre de la compote dans le biberon, quelque chose comme ça, pour convaincre Donald Trump de continuer la présence américaine dans la région.
C'est ça.
Très concrètement, on sait comment ça s'est passé lorsqu'il s'agit de partir du côté, par exemple, de la base de Manbij où étaient stationnés les Américains. Ils sont organisés avec l'armée syrienne pour la leur remettre. C'était impensable il y a encore quelques temps.
Bien sûr. Moi, ce qui m'a particulièrement frappé avec Manbij, c'est ce passage de relais aussi avec les Russes. Manbij, pour moi, est symboliquement extrêmement important et lourd de conséquences pour l'image des États-Unis en Syrie et dans la région de manière plus globale en termes de crédibilité. On a assisté en direct, filmé au départ des troupes américaines, à l'arrivée des Russes et tout ça sur fond de visite d'État de Vladimir Poutine en Arabie Saoudite. Donc le signal envoyé est quand même très mauvais pour les Américains. D'ailleurs, les troupes américaines qui quittaient Manbij se sentaient véritablement humilié. Ça a été extrêmement difficile à vivre pour ces militaires qui finalement vont être déployés ailleurs. Donc oui, effectivement, il y a ce passage de relais, mais il ne faut pas exclure des tensions, et d'ailleurs on les voit déjà, entre les Syriens, l'armée syrienne et également les forces turques, puisque la Turquie avait véritablement Manbij dans leur viseur.
Ce qui n'est peut-être pas si nouveau que ça sur la politique américaine de Donald Trump qui finalement contribue à renforcer la présence de la Russie dans la région, c'est que Barack Obama en son temps avait en quelque sorte délégué sur le dossier syrien la partie diplomatique à la Russie.
C'est ça, on est vraiment dans une politique de sous-traitance. De sous-traitance à la fois du volet militaire et diplomatique de la gestion de crise en Syrie. Obama, effectivement, en 2013, n'a pas suivi la ligne rouge, a ouvert la porte à la Russie, enfin, la Russie qui était déjà présente en Syrie, mais a renforcé véritablement son influence, mais également l'influence de la Turquie, de l'Iran. Et d'ailleurs, c'est extrêmement intéressant, c'est de voir que finalement, l'avenir politique de la Syrie n'est pas aujourd'hui réglé à Washington, mais à Sochi. Donc on a véritablement ce que j'appelle une désoccidentalisation de cette gestion de crise qui se fait finalement de manière accélérée de par la politique de Trump qui ne souhaite plus jouer le gendarme du monde. Obama, c'était pareil. Et donc de facto, vous créez d'autres gendarmes régionaux ou mondiaux qui, eux, vont jouer ce rôle d'orchestre diplomatique que les États-Unis ne souhaitent plus du tout jouer.
Vous parlez de désoccidentalisation, notamment dans un article qui vient de paraître dans la revue Esprit et que nous mettrons en ligne sur le site des enjeux internationaux. Vous écrivez aussi que Donald Trump réaffirme la vision américaine d'une division des tâches selon des critères géographiques, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire que dans l'idéal, lorsque l'on parle à des responsables militaires, diplomates américains, le fameux partage du fardeau, le partage des responsabilités devrait se faire selon des critères géographiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit de manière très nette, l'obsession en matière de politique étrangère américaine, c'est la Chine. La Chine et en numéro 2, la Russie. Et c'est moins la lutte contre le terrorisme. Ça fait depuis les attentats du 11 septembre que les Américains sont dans cette lutte contre les groupes terroristes en Irak, en Afghanistan, plus récemment en Syrie, et il y a une volonté de se désengager de ce combat-là. Et donc, dans ce cadre-là, la volonté, et on le voit, ça, c'était déjà très présent dans l'approche d'Obama, mais ça s'est accéléré avec Trump, c'est de pouvoir déléguer de plus en plus la responsabilité de la gestion de crise en Afrique et dans le Levant, donc en Syrie, en Irak, à ses alliés, les alliés régionaux des Américains, mais aussi à nous, Français et Européens. Donc ça, ça a des conséquences très très concrètes pour nous.
C'est vrai que dès le début de l'opération turque, Donald Trump a répété à maintes reprises que la Syrie est à 11 000 km des côtes américaines, manière de dire que ce qu'il s'y passe n'aura aucune conséquence sur le continent américain. Est-ce que ça doit remettre en cause, Alexandra de Hoopscheffer, et comment la manière et les conditions selon lesquelles la France et les alliés des États-Unis en général coopèrent avec eux?
Il faut qu'on redéfinisse notre alliance avec les États-Unis. La France est un peu à la pointe de cette réflexion. D'ailleurs, elle est assez isolée, mais je pense qu'elle est très juste. C'est-à-dire, vraiment, le défi, c'est comment articuler nos dépendances vis-à-vis de notre allié américain. Et on le voit d'ailleurs que notre présence militaire en Syrie dépend terriblement de la présence militaire américaine. Comment articuler ces dépendances-là avec un besoin d'autonomie et de plus d'indépendance? Et cette autonomie se décline sur le plan politique, diplomatique, mais aussi stratégico-militaire. Et donc là, je dirais que la grande question pour nous, c'est, et on le verra à la réunion qui aura lieu la semaine prochaine avec la coalition internationale anti-Daesh, est-ce qu'on partage aujourd'hui toujours les mêmes objectifs, les mêmes priorités stratégiques avec les États-Unis, puisqu'avec la mort d'Al-Baghdadi, avec cette volonté de se concentrer sur le pétrole, mais aussi sur la Chine, la Russie au plus long terme, mais aussi sur la sécurité du Golfe Persique, que fait-on avec la lutte contre Daesh? Et donc là, ça va vraiment être l'objectif de cette discussion. La France est véritablement, je dirais, dans l'initiative dans cette discussion. Et c'est véritablement cette discussion qu'on doit avoir aujourd'hui avec nos alliés américains.
La France qui réfléchit aujourd'hui à redimensionner complètement et changer de stratégie avec son opération Chamal, c'est par le biais de cette opération militaire qu'elle est impliquée dans la lutte contre Daesh dans la région. L'opération Chamal, d'après l'ancien colonel Michel Goya, les Américains réalisaient 95% des frappes. Donc de toute façon, tous les autres alliés des Américains se retrouvent quand même assez seuls. Et là, le Pentagone a-t-il encore les moyens de peser sur Donald Trump pour dire il faut rester?
L'objectif aujourd'hui du Pentagone et de l'administration Trump de manière plus générale, c'est de faire pression sur tous les dossiers de politique étrangère, sur nous, alliés européens, pour qu'on prenne une part plus importante de responsabilité dans cette lutte contre l'État islamique. Dans quelle mesure est-ce qu'on va être capable de répondre? On le voit, il y a véritablement un défaut de consensus européen sur cette question-là. On voit aussi, c'est pas seulement le facteur américain, mais c'est aussi la faiblesse européenne. La France se retrouve face à un Royaume-Uni face à une Allemagne qui sont politiquement très faibles, donc stratégiquement moins impliqués sur ces dossiers-là. Et donc, véritablement, l'objectif pour la France, c'est un peu le même que les Américains, c'est aussi comment partager le fardeau avec ses partenaires européens.
Merci beaucoup, Alexandra de Hoopscheffer, d'avoir été avec nous ce matin pour nous en parler. Bonne journée.
Merci.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente la dernière bande de Samuel Beckett avec Denis Lavant. C'est l'histoire d'un vieux monsieur qui réécoute sa voix parlant de son passé, enregistrée et rangée dans une boîte qu'il sort à chaque anniversaire. Pour un soir, son vieil être usé et son jeune être envolé vont dialoguer par magnétophone interposé. La dernière bande, mise en scène par Jacques Osinski, du 7 au 30 novembre à l'Athénée Théâtre Louis Jouvet à Paris, un partenariat France Culture.
Bonjour et très bonne matinée sur France Culture et bonjour à vous Guillaume Herner.
Et bonjour à vous Julie Gacot et bonjour à toutes et à tous.
6h57, c'est votre humeur du jour, on célèbre aujourd'hui Guillaume la chute du mur.
Oui, et ce qui est étonnant, c'est qu'il ne soit pas tombé, plutôt qu'il ait tenu aussi longtemps. Comment expliquer la survie du communisme alors qu'il suffisait d'un bref voyage Pologne, en RDA, pour s'apercevoir que ces régimes étaient parfaitement dysfonctionnels avec un étrange mélange de mesures terrifiantes et d'une réalité foutraque. Bref, une oscillation perpétuelle entre le père Ubu et Big Brother. Comment expliquer que tout cela ait tenu si longtemps? La réponse la plus profonde, à mon sens, a été donnée par l'écrivain Václav Havel, devenu président de la République fédérale tchèque et slovaque jusqu'en 92, puis président de la République tchèque. Jusqu'en 2003, grand dissident, Havel a dessiné une parabole fondamentale dans le pouvoir des sans-pouvoirs, l'histoire d'un marchand de légumes. Alors je vous résume cette histoire à gros traits, Julie. Il était une fois en Tchécoslovaquie communiste, un marchand de fruits et légumes. Et celui-ci avait eu l'idée de disposer au milieu des patates et des choux, parce qu'on ne trouvait pas grand-chose d'autre à l'époque communiste. Donc ce marchand avait eu l'idée de disposer au milieu de ses légumes une banderole où il était écrit « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Pourquoi avait-il fait cela, ce marchand de primeurs? Avait-il l'union du prolétariat chevillé au corps, demande Havel? Évidemment non, et d'ailleurs, il n'a probablement pas fait ça pour ses clients, explique Havel. Il a mis cette banderole pour que le pouvoir et ses affidés le voient. Car cette banderole, elle signifiait en réalité « Je suis un citoyen obéissant, je ferai tout ce que le pouvoir attend de moi, sans même qu'il ait besoin de l'exiger ». Et personne ne pouvait le lui reprocher. Comment pouvait-on être contre l'union des travailleurs du monde entier? En revanche, s'il avait mis dans sa vitrine « Je suis un lâche, un faillot, je ferai tout pour montrer au pouvoir que j'irai dans ce sens et dans le sens du vent. Alors là, oui, on aurait pu à minima se moquer de lui. Alors comment le communisme s'est-il effondré? Eh bien, lorsque les milliers de marchands de fruits et légumes se sont rendus compte qu'il n'y avait rien de mal à vouloir l'union du prolétariat, mais lorsqu'ils se sont rendus compte, dans le même temps, qu'en affichant ce type de banderole, c'est leur dignité qu'ils piétinaient. Le mur tombera, l'a expliqué Havel, lorsque les marchands de fruits et légumes décidèrent de retirer ces banderoles.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.